I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les couilles sur la table, épisode 34. Dans cet épisode, nous discutons de pornographie avec le journaliste Robin D'Angelo. Chers auditeurs, du porno, vous en regardez sûrement, vous en avez forcément déjà vu au moins une fois dans votre vie. Si vous êtes un homme de moins de 24 ans, il y a même une chance sur deux pour que vous en regardiez au moins une fois par semaine. Ce sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, une enquête IFOP de 2014. Bonjour Robin D'Angelo.
Salut Victoire.
On va se tutoyer parce que tu es aussi journaliste et qu'on a presque le même âge. Donc Robin D'Angelo, je t'ai invité parce que pendant plusieurs mois, tu as enquêté sur ce qu'on appelle le porno pro-am, donc la contraction de professionnels et d'amateurs, qui a envahi des plateformes comme YouPorn, Xhamster, Xvideo, etc. Tu en as tiré un livre qui a été publié aux éditions de la Goutte d'Or, ça s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi ». Je peux pas dire que j'ai trouvé sa lecture facile. C'est très bien écrit, hein. C'est très clair. En fait, ça se lit d'une traite. J'ai vu plein de témoignages de gens qui disaient qu'ils l'avaient lu d'un coup. Mais c'est juste que sur le fond, les propos sont parfois insoutenables, en tout cas pour moi, par moment. Il y a énormément de choses à dire sur les femmes actrices que tu rencontres, mais je vais volontairement les laisser de côté pendant cette conversation, parce que ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ce que tu as observé chez les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, et aussi l'introspection que tu as réalisée. Pour recontextualiser, est-ce que tu peux commencer par expliquer la différence entre le porno dit amateur et le porno professionnel et ce porno pro-am, s'il te plaît ?
Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre le porno amateur et professionnel. Ou dans le sens, le porno amateur que vous regardez souvent sur des plateformes type Jackie et Michel ou Pornhub qui va relayer ses vidéos, c'est en fait du porno professionnel. J'entends par professionnel, les producteurs sont insérés dans un circuit commercial. Généralement, ils font autant de l'amateur que du scénarisé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'amateur, c'est un style esthétique, c'est une esthétique visuelle, c'est un genre beaucoup plus qu'une façon de renseigner sur les moyens de production. Donc voilà, un producteur de Jackie et Michel, il va faire des scènes pour Jackie et Michel amateur, du porno-reportage comme ils disent, qui repose sur des ressorts assez exhibitionnistes, ce genre de choses, le côté à la femme du voisin. Et à l'inverse, il va aussi faire à côté du porno scénarisé, parfois pour le même client, puisque Jackie et Michel a son label de porno scénarisé qui s'appelle Elite, ou même pour Dorcel, ou même pour des boîtes de prod américaines type private. Donc voilà, en fait, l'amateur, c'est vraiment un style, et c'est pour ça que dans le milieu, on va parler de pro-am pour le différencier, alors là, du vrai amateur, qui serait une sorte d'amateur hors circuit commercial, qui va être de se baiser, de se filmer en train de baiser quand on est
des couples, d'accord,
voilà,
qui font ça.
Et de mettre ça sur YouPorn, puisque c'est aussi possible.
Oui, mais toi, par exemple, dans ton enquête, tu te concentres vraiment sur Jackie et Michel et pas sur des boîtes qui ont été installées depuis plus longtemps comme Dorcel.
Alors, en réalité, si, parce que j'assiste en tout à une quinzaine de tournages. Il y en a deux qui sont pour Dorcel, en fait. Il y en a deux, il y en a un qui est complètement scénarisé, qui est pour Dorcel, c'est le scénario du. Alors, je suis même sur la jaquette du film, donc c'est assez drôle, où je fais le rôle du mari trompé par son collègue de bureau. Donc voilà, y a une petite mise en scène, il y a 3 minutes obligatoires de dialogue pour scénariser, pour pouvoir poser la situation, et puis après les gens font leur truc. Donc voilà, il y a du Dorcel, mais encore une fois, pour reparler de l'amateur, ce qui est intéressant, c'est qu'une actrice qui va démarrer en faisant des scènes Jackie et Michel va se retrouver tout de suite dans des pornos scénarisés aussi. En fait, elle va pas se cantonner à ce rôle là si elle a envie de continuer, de faire un peu d'argent ou pour toutes les raisons qui l'animent. Voilà, elle va aussi passer dans le scénarisé.
Donc tu viens d'expliquer que tu es sur la jaquette d'un des films. Ça...
Tu veux que je montre la photo ?
Non.
Il n'y a rien d'explicite sur la photo, c'est une jaquette.
Bon, ça c'est une anecdote, c'est un des trucs que tu as fait, mais ça en dit long sur ta manière d'enquêter. C'est-à-dire que toi, tu as fait une enquête en mode gonzo, comme on dit chez les journalistes, c'est-à-dire que tu as participé et tu racontes toute ton enquête à la première personne. Ça a été difficile d'enquêter sur ce milieu ?
Ça a été très dur parce que c'est un milieu fermé où on se méfie des journalistes parce que, bah, évidemment, il y a plein de choses qui posent question, donc on n'a pas forcément envie que l'œil extérieur mette le nez dedans. Moi, ma méthode pour enquêter là-dessus, bah, ça a été l'immersion. Donc, en fait, de traîner avec les gens, de faire copain-copain avec eux jusqu'à ce qu'ils puissent ouvrir certaines portes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai beaucoup usé de ma casquette de journaliste dans le sens où c'est vraiment un donnant-donnant permanent avec les gens, tu leur rends service en fait finalement, un producteur qui débute, qui a envie d'avoir un article sur lui par exemple dans le magazine Playboy sur lequel je pigeais à l'époque, bah voilà, toi en tant que journaliste tu peux lui offrir quelque chose, une exposition dans Playboy, ça lui permet à lui de trouver plus de filles, et moi ça me permet de mettre un pied sur ses tournages.
Il y a cette méthode d'enquête que tu as qui te permet d'obtenir énormément d'informations sur ce milieu. Et puis, il y a la façon, les questions que tu te poses. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que tu n'éludes pas du tout le fait que toi, tu es un homme hétérosexuel et tu consommes du porno. Je trouve que pour qu'on comprenne bien ta démarche, je me dis que le mieux, c'est que les auditeuristes entendent les premières phrases de ton livre. Donc, est-ce que tu veux bien les lire, s'il te plaît ?
C'est parti. Je l'appelle le circuit de la branlette. Certains soirs, au fond de mon lit, j'entame une balade pornographique. D'abord Pornhub et sa homepage jaune et noire où je sélectionne les dernières vidéos susceptibles de m'intéresser. Puis Xvidéo et son catalogue gargantuesque de films piratés aux quatre coins de la planète. La lumière blanche de l'écran m'éclaire dans la pénombre, une main sous la couette et l'autre sur le pavé tactile. Rapidement, le flux généraliste des pages d'accueil m'ennuie, trop plan-plan. Je file dans l'onglet catégorie et j'affine mes recherches. Je sais ce qui m'excite, des gorges profondes qui finissent avec des actrices, le visage dégoulinant d'eyeliner, des gangbangs qui laissent derrière eux des anus béants. Je ne pense pas être misogyne. Je suis pour la répartition des tâches ménagères, pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Je peste dès qu'un mec siffle une fille en mini-jupe ou en moque une autre avec du poil sous les bras. Cela dit, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur domination sur des femmes. D'après les compteurs de vues, des millions d'hommes et de femmes font la même chose que moi. Je ne connais pourtant pas grand monde qui avoue se branler devant ce type de vidéos. Pas même mes amis les plus proches. Nous évitons tous le miroir tendu par nos fantasmes, moi le premier.
Merci. On va discuter plus loin dans l'émission de ce que tu vois dans ce miroir tendu par tes fantasmes et sur le fait que cet espace de paradoxe, sur le fait que toi tu dirais que t'es, déjà tu dis que t'es pas misogyne, est-ce que tu dirais que t'es féministe ?
C'est dur en tant que mec de dire d'être féministe, donc je préfère dire que je suis pro-féministe, ou dans le sens, c'est des questions qui m'intéressent, auxquelles j'ai sensibilisé depuis 3-4 ans vraiment, et où je lis dessus, tout ça, donc oui. Plutôt pro-féministe que féministe.
Ok, donc on va parler de ce que toi ça t'a fait, de ce que t'as compris, etc. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous racontes qui sont les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, en commençant par les producteurs. Qui sont-ils ? Par exemple, Jackie et Michel, qui sont ces gens ?
Alors, Jackie et Michel... Un, c'est pas un producteur, c'est un diffuseur, c'est un site, c'est une marque, donc c'est un nom qui joue son côté image de marque, couple libertin, qui va diffuser des amateurs, mais en vrai, voilà, évidemment, tout ça, c'est du marketing. Derrière, ce sont des pros qui sont pas du tout amateurs, en l'occurrence, Michel et son associé depuis 15 ans maintenant, qui s'appelle Abel, et tous les deux, en fait, ils ont développé ce circuit vidéo de vente par Internet de films à esthétique pro-am, toujours fait par le même petit animé par un même noyau de producteurs qui, pour certains, leur envoient jusqu'à 10-15 scènes par mois, donc qui en vivent vraiment exclusivement. D'autres qui font ça à côté, qui vont envoyer seulement 2, 3, 4 scènes par mois, ça dépend un petit peu du nombre d'actrices qu'ils trouvent, en fait.
Donc ces producteurs-là, ils ont des noms comme Stéphane Prod, par exemple.
Stéphane Prod a travaillé pour eux, il ne travaille plus aujourd'hui pour Jackie et Michel, ça a été un de leurs premiers producteurs au début des années 2010, à peu près, un peu 2009-2010.
Il y a, donc je cite les noms, hein, parce que parfois on les voit apparaître sur les vidéos et t'en parles dans le livre, donc John Beirut que tu rencontres.
John Beirut qui a fait des films élites pour le coup, sur leur label scénarisé, c'est encore un petit peu différent, mais oui, c'est pour Jackie et Michel.
Et donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces producteurs que tu rencontres ? Quel genre d'homme c'est ? Quel type de profil ils ont ?
Il y a vraiment tout le monde en fait, c'est ça qui est intéressant, où moi je me suis retrouvé avec des gens sur d'autres thèmes que le porno, qui m'ont intéressé, que ce soit la littérature, la musique ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est très varié, le profil de mecs qui font ça. Il y a tous les milieux sociaux, tous les milieux politiques.
Dans les producteurs.
L'homme hétérosexuel,
mais c'est quand même,
dans toute sa variété.
C'est quand même des hommes qui produisent...
Évidemment, c'est quand même des hommes.
Évidemment.
Bah, c'est un porno mainstream qui reflète, on va dire, la différence de hiérarchie entre la sexualité féminine et masculine. Et dans cette différence de hiérarchie, bah, c'est plutôt les hommes qui dirigent et les femmes qui interprètent, on va dire.
Il y a un truc qui est frappant, c'est que pour toi, j'imagine qu'il a travaillé sur l'extrême droite, tu as enquêté sur Soral, c'est que les opinions d'extrême droite, misogynes et sexistes et racistes, ont l'air quand même d'être très présentes dans ce milieu, chez les producteurs notamment.
Elles sont présentes, je pense, de la même façon que dans le reste de la société, peut-être un petit peu plus, mais après, voilà, ça fait assez sens où bah, y a des producteurs qui vont m'expliquer « Non, mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi, on peut plus aller draguer une fille dans la rue, moi, j'ose même plus demander l'heure à une nana dans le métro, j'ai peur qu'elle me dise « Balance ton porc ». Et voilà, en fait, il y a vraiment cette idée de réaction où, dans le sens, on peut plus être des hommes, on peut plus affirmer nos désirs, on peut plus faire ce qu'on peut plus bander sur ce qu'on a envie de bander, parce que bah, y a les féministes derrière qui nous tapent dessus et qui veulent imposer leur vision de la société et qui est faite contre les hommes, en fait, contre les désirs naturels des hommes. Donc finalement, ce discours bah, très masculiniste, bah, on va forcément le retrouver dans des franges politiques bah, plutôt conservatrices, donc évidemment réactionnaires, donc évidemment à l'extrême droite. Et puis il y a toujours ce côté de lutter contre une société qui aujourd'hui voudrait tout aseptiser et même le désir sexuel. Ce que nous, on peut voir comme bah, de l'égalité, puisqu'on part du constat qu'il y a une désinégalité structurelle entre hommes et femmes, eux, ben, finalement, ils ne voient pas cette inégalité. C'est plutôt quelque chose de pulsionnel, de naturel, en fait, pour eux. C'est un mot qui revient souvent. Et donc, effectivement, ben, leur pornographie, pour certains, est un moyen d'exprimer ça et d'aller dans ces désirs-là plutôt conservateurs, presque. Ce qui m'a surtout marqué, je m'attendais à rencontrer des gens d'extrême droite par rapport à ce que je t'ai dit, mais en réalité, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens de gauche. C'est surtout ça finalement que je retiens à me dire bah, cette vision de la sexualité, du rapport hétérosexuel, finalement il est aussi présent chez des gens qui se revendiquent de gauche et presque autant que chez des gens qui se revendiquent de droite. C'est ça qui est intéressant. Oliver, il est antifa, il a tatoué partout sur son corps des slogans anarchistes, il a une étoile rouge sur le crâne tatouée. John Birut, que je suis beaucoup, lui se revendique libertaire. Il y en a un autre qui s'appelle Kiawato, sa photo de profil c'est la France insoumise. Enfin voilà, j'ai été étonné en fait de la variété des profils et de la présence de beaucoup de gens qui s'affichent comme de gauche.
Sauf que ça change rien dans leur rapport à la sexualité.
Exactement.
Qui est toujours une sexualité qui est quand même ultra violente pour les femmes.
Exactement, un mec comme Oliver est antifa, mais ça l'empêche pas, par exemple, de faire. Il se revendique tout le temps anti-raciste, anti-sexisme et anti-homophobie, mais il va faire des films qui reposent sur des scénarios, des films interracial, par exemple. C'est une scène à laquelle j'assiste avec lui, où il fait une scène, bah, c'est de l'interracial, donc il demande à ses acteurs noirs de dire salope à Black, de se comporter, comme il dit, comme des racailles. Voilà, donc on voit comment... Bah,
même que l'acteur dit, il n'arrive pas à le dire, en fait.
Même
il est mal à l'aise,
voilà,
avec ça. Et
exactement.
Et lui, il lui dit, bah, écoute...
Écoute, mon coco, t'as pas de chance, t'es noir, tu vas avoir des rôles de racaille, donc habitue-toi à dire salope à Black. Même si t'es antifa, c'est un script sexuel, un qui marche, lui dit qu'il le fait pour l'argent, et puis qui excite plein de gens, quelles que soient leurs opinions politiques.
Du côté des acteurs qui jouent dans les films, donc t'en rencontres plusieurs pendant ton enquête, est-ce que tu peux nous parler par exemple de David ?
David, ouais, c'est un acteur qui en fait est plus fan qu'autre chose au début quand il démarre, et moi je le rencontre sur une des prods les plus low cost de France, et lui est là, il vient pour, comme il dit, pour se vider les couilles, il mate du porno depuis toujours, et il est là sur ce tournage, et puis moi aussi je suis là, c'est ma porte d'entrée que je trouve, c'est le plus bas possible, et on est un peu tous les deux dans la même situation, où moi je veux gravir les échelons pour raconter cet univers, et lui veut gravir les échelons pour être acteur, et au final on devient copains, et je lui propose de venir avec moi sur un salon du X auquel je comptais me rendre, et au salon du X, lui est assez timide, il voit toutes ces actrices qui sont là, et il les connaît toutes en fait. Pour moi c'est des inconnus, parce que je suis un consommateur plutôt, on va dire, passif de porno, je m'intéresse pas à la vie des femmes qu'il incarne, ce genre de choses, les suis pas sur Twitter ou ce genre de choses. David, lui, à l'inverse, totalement, il les connaît toutes. Et moi, je suis là et je me dis, putain, ce mec connaît toutes les nanas qui sont là, qui sont pour moi des inconnues. Et je comprends qu'il y a toute une scène, toute une contre-culture, finalement, assez underground. Bah voilà, c'est un sous-genre culturel, mais avec ses fans, avec ses figures. Et lui est là, et puis de fil en aiguille, ben, je le présente à des gens, puisque il est trop intimidé, presque, pour aller parler à ses actrices, même pour aller parler aux acteurs. Et moi, dans ma position de journaliste, qui est bah, là pour interviewer les gens, je lui présente les gens, et de fil en aiguille, il prend le contact d'un acteur qui va l'inviter sur un tournage, et sa carrière va décoller.
Bon, lui, il te dit, et d'ailleurs, tu l'écris dans ton livre, il te dit, ah bah, moi, je suis là pour me vider les couilles, donc c'est une expression qui revient assez souvent.
Qui revient, ouais, quasiment dans la bouche de tous les acteurs et de tous les producteurs, ouais.
Quel rapport, tu dirais, qu'ils ont avec leur sexualité ou avec les femmes ?
En fait, je me suis longtemps posé la question à laquelle j'ai voulu répondre. Je ne comprenais pas pourquoi bah, on aimait mater des vidéos avec des femmes qui se font jouer dessus. Pourquoi les acteurs, et même moi, ça peut m'arriver quand je parle avec des potes, quand on parle d'une meuf, on dit « je l'ai défoncé » ou ce genre de choses. Pourquoi, en fait ? Et voilà, donc je me faisais face à ces acteurs, et notamment Tonio, j'ai une discussion avec lui, il n'arrête pas de me parler des nanas qu'il a tournées. Elle, j'ai déglingué. À un moment, je lui dis mais pourquoi tu dis le mot « déglingué » ? Et il me dit, bah, je sais pas, les meufs, tu les déglingues. Et il me cite un autre acteur, il dit, regarde, lui, quand il baisse des meufs, il les déglingue. Bah, c'est comme ça que j'ai envie de baiser les meufs. Mais pourquoi ? Et je comprends pas tes questions, en fait. Et en fait, c'est intéressant de voir à quel point bah, le schéma, ce script sexuel bah, est tellement normalisé pour des gens qui ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils bandent là-dessus. Et ils voient absolument pas qu'il y a un problème, on va dire,
même quand
de hiérarchie, en fait.
Même quand c'est leur métier.
Et surtout quand c'est leur métier.
De dire je les déglingue, je les défonce, c'est
surtout
pour me
quand
vider
c'est leur
les
métier,
couilles,
ouais.
etc.
Pareil, la même chose, j'ai un producteur avec qui je suis devenu assez copain pendant un bouquin qui s'appelle Célian. Et lui, il montre ses vidéos qui sont où il y a beaucoup d'humiliation des actrices. Et pareil, quand je lui demande mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu aimes, ça t'excite finalement des humiliés. Et en fait, voilà, cette réponse ne vient jamais. Et pareil, lui, il m'explique bah non, mais c'est comme ça que je veux terminer la scène pour me faire plaisir, tout ça. Et en fait, ce regard introspectif de comprendre que bah, c'est construit, en fait, les gens ne l'ont pas, et du coup c'est un peu ça que j'ai voulu explorer. Ça m'a aussi renvoyé une image de moi, de savoir bah, pourquoi
toi,
on a besoin de pourquoi, évidemment.
Et puis ça se retrouve effectivement dans le langage, puisque se faire baiser, ça veut quand même toujours dire se faire arnaquer dans le langage courant,
évidemment, ouais.
Donc il y en a quand même un qui gagne et l'autre qui perd. Baiser quelqu'un, ça veut dire qu'on a gagné, et se faire baiser, ça veut dire qu'on a perdu. Ce rapport-là que tu décris, c'est cette différence entre hommes et femmes, ça se retrouve dans le traitement différent qu'ont les acteurs et les actrices, la façon dont les producteurs le traitent. Par exemple, Oliver, dont tu as parlé, le producteur qui se dit antifasciste, te dit « La première chose que tu dois savoir dans le porno, c'est que pour les mecs, c'est impossible de débuter. Moi, je reçois 50 demandes par semaine, mais par contre, un mec qui est bon, une fois qu'il est dedans, il a 15 ans de carrière devant lui. Et puis tu lui demandes pour les filles ce qu'il en est, et là il te dit ah bah non, une fois qu'elle a fait toutes les prods, plus personne ne veut d'elle.
Bah oui, c'est alors on voit aussi sur la différence de salaire. Il faut vraiment prendre le porno comme une loupe, un miroir déformant qui va exacerber les différences hommes-femmes et dans la sexualité. Et on le voit notamment sur le prix de la sexualité, où un mec, une scène porno dans ce secteur, elle est autour de 50 et 100 euros, parce qu'on estime que le plaisir sexuel qu'il va prendre suffit. Alors qu'une actrice, à l'inverse, elle va contrevenir parfois à sa sexualité, enfin souvent à sa sexualité ou à son plaisir. Et puis il y a aussi le stigmate social, enfin il y a plein de raisons qui fait qu'on va la payer plus cher. Mais voilà, mais ce qui est sous-tendu, c'est le plaisir qui va être moins prioritaire. Et d'ailleurs, on le remarque quand on demande aux actrices pourquoi vous lancez dans le porno. Alors je sais pas si c'est par fierté ou quoi que ce soit, mais il n'y en a aucune qui va dire parce que c'est un plaisir sexuel.
Il y en a aucune qui l'a dit,
sexuel.
En tout cas.
Elles peuvent me le dire, mais jamais dans la raison pourquoi tu t'es lancé. Ça arrive qu'elles me disent bah non, mais il y a des scènes des fois où je prends mon plaisir, évidemment, mais quand on leur demande pourquoi tu t'es mis à faire du porno, soit c'est l'argent, ou soit c'est pour des questions où c'est des questions de reconnaissance ou l'aventure, mais rarement pour prendre mon pied ou par plaisir sexuel. Alors que les mecs vont tous te répondre moi je fais ça pour me vider les couilles.
Ce qui veut dire avoir du plaisir.
Exactement. Moi, il y a un acteur, par exemple, qui était un vrai débutant, qui m'a harcelé pendant des semaines par texto pour que je le mette en relation avec des producteurs parce qu'il voulait absolument faire des tournages. J'ai fait un tournage avec lui et ça se passait très mal parce que le producteur lui disait « t'es pas sur un plan perso, arrête ». Et le mec, en fait, demandait à se faire sucer entre les prises ou ce genre de choses. Donc on voit très bien pourquoi s'était lancé dans le porno, quoi. C'était juste pour, par opportunisme et pour prendre un plaisir. Cet opportuniste, par exemple, je le retrouve sur la scène du buquet à la fin où j'arrive.
Juste recontexte, donc un buquet.
Ouais, faut prononcer à la française.
Voilà, je sais pas comment on dit autrement, mais c'est le principe est qu'une femme va être dans une salle et il y aura des dizaines d'hommes différents qui vont éjaculer sur elle.
Sur son visage, ouais. C'est ça le truc. Et en fait...
Donc toi, tu vas... En fait, c'est la dernière scène du livre. Peut-être qu'on va pas trop...
Pas trop la spoiler,
tout,
mais... oui. Mais ce qui est intéressant, c'est... en fait, moi, je vais là-bas, je prends un petit coup dans la tronche en ressortant et je me demande mais pourquoi des mecs font ça, quoi. Il y a le dénuement de l'actrice, c'est total. Tu sens qu'elle n'est pas du tout là pour son plaisir. Il y a 36 mecs. 36 mecs. Et quasiment tous masqués et tout. Et il y a la question finalement de cet opportunisme. En fait, je pense pas que les mecs soient forcément des sadiques qui vont là-dedans. Ils y vont parce que ils veulent baiser par n'importe quel moyen.
Là, en réécoutant l'enregistrement, je me rends compte que pendant cet entretien, j'ai oublié de préciser un élément de contexte important. Vous posez sans doute la question, mais oui, Romain D'Angelo est resté dans une position d'observateur de cette scène, comme il le raconte dans son livre.
C'est intéressant, on m'a beaucoup parlé de misère sexuelle, soit lors d'une interview, ce genre de choses, et moi c'est un terme que je récuse dans le sens où misère sexuelle, ça sous-entend qu'il y a une forme de pulsion, en fait, que l'homme aurait une pulsion sexuelle, qu'il aurait un besoin d'assouvir, et que finalement, il faut l'assouvir par quelconque moyen. C'est absolument pas ça, tout ça est une construction. Les sexologues ont montré, depuis les années 70, les anthropologues, que la conception freudienne, qui était de dire, en gros, on a des pulsions sexuelles, et la vie en société sert à canaliser nos pulsions sexuelles. On a montré, on en est revenu, on explique plutôt aujourd'hui que les pulsions sexuelles, c'est une construction, il n'y a pas vraiment de pulsions sexuelles. Au contraire, c'est la société qui construit nos pulsions plutôt que la société qui devrait canaliser nos pulsions. Donc voilà, avec ce genre de grille de lecture, on comprend que le mot de misère sexuelle est pareil, est juste une construction vu qu'on l'applique souvent généralement qu'à des mecs, blablabla. Enfin bref, parce que tout ça pour dire que sur ce buquet, on voit finalement c'est cet opportunisme et où ça peut mener cette construction qu'ont les mecs de vouloir ce besoin qui pense ressentir de se vider les couilles, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait ils le font parce qu'ils le peuvent aussi.
C'est gratuit.
Mais ils y vont. Eux, ils demandent pas d'argent pour le faire.
Alors si, ils doivent s'abonner au site. Donc ils doivent payer quand même 30 euros, mais ils sont masqués, donc il n'y a aucun risque pour eux de se faire reconnaître, quoi que ce soit, même la fille ne sait pas qui c'est. Donc ils sont dans cet anonymat total qui leur permet de...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment sont filmés les hommes dans ces pornos?
Les hommes sont pas au centre de l'action.
Ils sont pas au centre de l'image.
Ils sont pas au centre de l'image. On voit rarement leur visage, en tout cas beaucoup moins que celui des femmes. Du coup, ça se répercute sur la façon dont va fonctionner le porno, dans le sens où on a toujours besoin de nouveaux visages, on a toujours besoin de chair fraîche, d'actrices pour alimenter cette machine, ces tubes qui fonctionnent à flux tendu. Mais à l'inverse, on n'a pas besoin de nouveaux acteurs, on n'a pas besoin de nouveaux visages puisqu'on ne voit pas en bout. rarement les visages des acteurs. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi un acteur peut durer 5, 10, 15 ans, tandis qu'une actrice, bah, au bout d'un an, et une fois qu'on l'a vu, qu'elle a fait ses 5 scènes pour chaque producteur de France, bah, ça se vend plus. Quand on en a marre, il faut un autre visage. C'est pour ça que je mets cette phrase en intro du bouquin que j'ai beaucoup aimé, que j'avais trouvé dans le bouquin en fait, de Mona Chollet, Beauté fatale, mais elle cite un auteur qui s'appelle John Berger et qui écrit quelque chose qui les hommes regardent les femmes se regardent être regardées. Et en fait, pour moi, c'est une bonne définition du porno. Si une femme regarde un porno, elle regarde
des hommes.
Elle voit des hommes regarder une femme, et à l'inverse, un homme regarde juste une femme.
Oui, parce que les corps des acteurs sont pas du tout érotisés. On filme même très peu leur corps.
Exactement. C'est intéressant. Il y a une étude. Alors, ça vaut ce que ça vaut, les études sur les tags qui regardent quoi, mais montrait que 30% du porno gay était consommé par des femmes. Et une analyse intéressante que j'avais lue était que, finalement, dans le porno hétéro, il y a tellement pas ou peu d'érotisation des corps masculins que des femmes hétérosexuelles vont préférer garder du porno gay parce que ça met plus en valeur un érotisme masculin.
On en parle un peu dans l'épisode avec Florian Vorous. Mmh. Tu parles aussi des produits qui sont utilisés par les acteurs. Moi, j'ai appris dans ton livre que certains acteurs se faisaient des injections dans le pénis, mais c'est que c'était une pratique assez taboue dans le milieu.
Faut comprendre aussi que les acteurs, c'est pas non plus toujours facile dans le sens où eux aussi ont parfois à se forcer, ou en tout cas faire parfois 3 scènes par jour pendant 4 jours, au bout d'un moment, les mecs, évidemment, les mecs bandent moins dur, ou quoi que ce soit, et faut pouvoir être prêt à n'importe quel moment, parce que, comme disait la citation que tu rapportais d'Oliver, il y a des mecs qui veulent faire ça, il y en a des tonnes, donc pour pouvoir être fiable et que le producteur vous appelle toujours au maximum, et puis gagner de l'argent aussi, évidemment, on est un peu obligé de se piquer parfois ou prendre des médicaments comme le Camagra, ce genre de choses. Alors après, faut relativiser la violence du truc, où effectivement, quand on te parle d'un mec qui va se piquer la bite, t'imagines une seringue énorme, le mec qui se pique, Trainspotting, du sang, tout ça. En réalité, un acteur me raconte, c'est des seringues, mais les plus fines possibles qu'on achète en pharmacie, toute simple. Ça prend une demi-seconde, il n'y a pas de nerf dans le pénis, donc au niveau du corps caverneux, donc on sent rien, c'est vraiment comme allumer une cigarette, quoi.
Ouais, alors que c'est pas le sujet de l'épisode, mais il y a beaucoup à dire sur la douleur qui est ressentie par les actrices et dont elles te parlent aussi. Mm-hmm. Bon, toi, t'as quand même une position qui est difficile, parce que t'assistes à des scènes d'une grande violence, qui est difficile au sens éthique du terme. Mm-hmm. Par exemple, t'es témoin d'une scène où une actrice qui pensait qu'elle aurait 2 partenaires, en fait, elle découvre qu'elle en va en avoir 4. Mm-hmm. Une actrice qui voulait pas accepter de pénétration anale, en fait, le producteur lui impose. Mm-hmm. Pourquoi tu n'interviens pas, toi ? Pourquoi tu dis rien dans ces moments-là ? Qu'est-ce que tu penses ?
Je pense plein de trucs. En fait, ça dépend aussi à chaque scène. Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est dès que je sens que l'actrice me demande de l'aide ou en tout cas affiche que elle a besoin que quelqu'un l'aide, j'interviens. Par exemple, sur la scène où c'est le plus flagrant, c'est une scène où je suis cadreur et le producteur, qui est aussi acteur de la scène, m'explique avant qu'il prévient pas en précision ce qu'il va faire avec l'actrice pour saisir sa spontanéité. Il me dit ça passe ou ça casse, et il lui fait des pratiques. Il fait des pratiques plutôt violentes dans ses vidéos. Et en fait, à un moment, il va plaquer l'actrice sur le canapé, il va lui gifler les seins assez fort. Et l'actrice qui venait juste de se refaire les seins super mal, elle hurle, elle l'envoie chier, et elle lui dit « Tu m'as pas dit que ça serait brutal, pourquoi tu fais ça ? Non mais oh, on est où ? C'est quoi ça ?» Et en fait, à ce moment-là, avant la scène, je me demande ce qui va se passer. Je me dis, ça se trouve, il le fait pas, ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Donc, je laisse couler pour voir ce qui se passe. Et quand ça se produit, je me dis, merde, est-ce que j'interviens ou pas? Et finalement, l'actrice, assez rapidement, dit au producteur, OK, mais c'est plus d'argent. Et en fait, tu te dis, l'actrice, je l'ai jamais senti finalement en position de demander de l'aide ou quoi que ce soit, et j'ai surtout senti, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, en question de elle vend la contrainte sexuelle, en fait, c'est son métier, et c'est une actrice qui fait beaucoup de pratiques SM, beaucoup de trucs très durs, elle a 50 bouteilles, et effectivement, j'en viens presque à me dire aujourd'hui que si j'étais intervenu, la nana, elle m'aurait peut-être envoyé chier en me disant, non mais de quoi tu te mêles, moi je suis là pour prendre mes 400 euros ou mes 500 euros, et c'est son métier en fait, et c'est ça qui est terrible, c'est que ces femmes qu'on monétise la contrainte sexuelle.
Et donc la contrainte sexuelle peut s'acheter.
Et évidemment. Et c'est vrai que ça, c'est ce que cachent les producteurs porno, ce que l'extérieur ne doit pas voir. Et c'est vrai que quand
ça fait... Les spectateurs ne doivent pas savoir.
Exactement, hein. Et même les journalistes et tout le monde. Et c'est vrai que quand ça fait un an qu'on est dans le milieu et que tu accèdes en fait à ce genre de choses par l'immersion, la sympathie que t'as pu nouer, au genre de choses, et qu'on te donne la caméra, tu dois documenter en fait ça, sinon ça sort pas. Sinon, personne ne le sait. Parce que, en réalité, c'est vrai que la parole des actrices, elle est très très rare. Voilà, il n'y a pas eu de MeToo dans le porno ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, il faut. J'arrive à ce moment-là, je me dis, merde, qu'est-ce qui va se passer ? Au moins, je sais qui m'a dit ça. Donc, je sais qui pense ça. Après, comment ça va se matérialiser lors de la scène ? Est-ce que ça va vraiment. Est-ce que l'actrice va. Comment ça va se passer pour elle ? Et après, je vois l'actrice qui lui demande plus d'argent, qui est une nana, qui vient de Barcelone, qui vient à Paris pour une semaine pour faire 8 tournages, elle doit faire ses 3000 euros dans la semaine. Puis voilà, et puis d'ailleurs, quand elle repart, elle fait un tweet en disant super, le tournage s'est excellemment bien passé, c'était génial. Parce que c'est son métier et qu'elle veut d'autres, prods et elle veut 400 balles une scène et voilà.
Bon, on peut parler de toi maintenant. J'aimerais savoir, tu parlais du miroir tendu par tes fantasmes. Qu'est-ce que tu vois alors dans le miroir tendu par tes fantasmes ?
Je vois à quel point ce dont je te parlais tout à l'heure, à quel point on a besoin de ces scripts en fait, comment on se construit sur des scripts par rapport à l'enfance, par rapport à comment tu te construis sexuellement, pourquoi moi quand j'avais 12 ans, j'étais ado, mon film préféré c'était Marié à tout prix, et je grandis dans cette espèce d'idéal romantique de la nana du lycée dont t'es secrètement amoureux, mais qui au final, parce que t'es un bon gars, va se mettre avec toi. Et en fait, tu comprends que finalement, cette lecture de que finalement la nana dont t'es amoureux, elle te doit quelque chose parce que t'es sympa avec elle, c'est déjà un rapport de séduction qui est assez vicié en fait, et que du coup c'est logique après de construire tout un désir sexuel sur cette frustration, sur le fait que une fille va pas coucher avec toi parce que t'es sympa ou ce genre de choses. Donc du coup tu vas construire tout un imaginaire qui repose sur des choses assez machistes et assez
Mais pourquoi c'est tellement excitant? Des scénarios machistes et misogynes et très violents et humiliants pour les femmes.
Pourquoi c'est excitant? Parce que je pense que c'est vachement lié à un sentiment de frustration en fait, presque de comme je te disais, en tant que mec on grandit dans cette où on se construit en tant que on a besoin de baiser, on parlait tout à l'heure de misère sexuelle, de toutes ces choses là, mais sauf que quand on se construit comme ça et qu'on n'accède pas à quelque chose, on a besoin de peut-être de se défouler quoi, et de développer. Le porno sert à ça, une sorte de soupape à ça, d'exutoire, où se dire putain, cette fille en soirée, j'aurais kiffé ken avec elle, mais non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Du coup, t'as envie de voir cette fille qui ken malgré tout, sans alors que ça devrait être impossible. Je sais pas si je suis clair.
Mais... Si c'est clair, mais je comprends ce que tu es en train de dire, mais je suis pas sûre. Du coup, je vais essayer de reformuler. Est-ce que tu veux dire que donc en tant qu'homme, t'as l'impression que tu as grandi avec l'idée que le sexe était quelque chose qui t'était dû? Parce que tu avais des besoins. Mmh. Et je dis toi, mais donc ça vaut pour les hommes hétérosexuels. On t'explique qu'en tant qu'homme, tu as des besoins sexuels et que le sexe t'est dû. Sauf que dans la vie, on n'assouvit pas ces fameux besoins qui sont socialement construits comme on veut. Et donc que le porno serait un exutoire à la frustration que ça crée. Mais alors pourquoi la violence? Pourquoi l'humiliation? Parce que c'est quand même ça qui est frappant dans toutes ces scènes porno, c'est que il y a pas une scène qui est tendre, il y a pas une scène qui est respectueuse, il y a pas une scène, c'est toujours quand même, c'est le fait que même la douleur exprimée par l'actrice est considérée comme excitante, la domination, l'humiliation, c'est le langage utilisé, c'est tout ça est très très violent, donc pourquoi? J'en sais rien, hein. Je pose la question, mais je me dis que toi, t'as eu le temps de réfléchir à tout ça pendant ton un an et demi d'enquête.
Non, mais c'est un peu tout ce que je cherchais auprès de ces acteurs ou ces producteurs, à leur demander pourquoi et...
Eux, ils te donnaient pas de réponse, en tout cas.
Non,
eux, ils te disaient, parce que c'est comme ça qu'on baise, en fait.
Ouais, il y a ce côté-là, quoi. Mais je pense que c'est un mélange de plein de trucs, quoi. D'opportunisme, de...
De haine des femmes.
De...
Je propose mes hypothèses.
Hein. Non, mais oui, de haine des femmes, ou dans le sens, il y a ce truc d'inaccessibilité. Donc forcément, quand il y a quelque chose, tu estimes que ça t'est dû et qu'en fait ça t'est inaccessible, et ben t'as un peu envie de te venger ou de contrôler la chose ou ce genre de choses. Peut-être. C'est intéressant. Un producteur me disait, parlait beaucoup de son adolescence et me parlait beaucoup de quand il était au lycée, aucune nana le regardait ou quoi que ce soit. Presque un discours un peu ce qu'on entendait chez les incels ou ce genre de choses.
Les involuntary celibates, là, les célibataires involontaires. Donc c'est une communauté masculiniste très misogyne dont certains membres ont commis des attentats contre les femmes, en tout cas des attentats, des féminicides.
Et il y avait un peu chez lui cette volonté de, en payant finalement, on allait contre ce célibat involontaire ou le fait que la vie c'était pas toutes les meufs qui veulent coucher avec toi ou ce genre de choses. Et du coup, il y avait ce côté très défouloir quand il en parlait, quoi. Et aujourd'hui, j'achète et je fais ce que je veux, quoi. Et de toute façon, si les meufs d'où elles viennent ou ce qu'elles font, j'en ai rien à foutre parce que c'est la société, de toute façon, c'est de la merde. Voilà, donc je prends mon pied et tout ce qui me rendait malheureux dans l'adolescence, je me redéfoule aujourd'hui dessus, quoi.
Est-ce que toi, tu dis que c'est dans l'intro, tu dis que on n'aime pas regarder ce miroir et puis que les gens, c'est rare qu'on en discute avec ses amis, quoi. Est-ce que toi, tu discutes maintenant de porno avec tes amis? Est-ce que tu as eu des discussions avec eux sur en fait pourquoi ça nous excite de regarder des vidéos ultra violentes?
Pas vraiment, un petit peu si quand même avec certains, mais après c'est pas ça va au-delà de ça va au-delà du porno, quoi. Ça va être un pote qui me dit on peut plus rien faire aujourd'hui. Ou genre je peux plus, enfin quand tu regardes une nana dans le métro, je vois pas où est le problème, ou ce genre de choses, tu vois. Et finalement c'est toujours un peu la même chose, quoi, sur une position dominante d'un mec qui va regarder une fille qui veut pas être qui a envie que tu la laisses tranquille ou ce genre de choses. Ça, en fait, voilà, c'est vachement plus vaste, en fait. Et c'est vrai que les discussions que j'ai avec mes potes vont plutôt porter sur d'autres sujets que celui vraiment de la pornographie en particulier, quoi.
Est-ce que toi, ça a changé ton désir? Est-ce que toi, ça a changé ton regard?
Oui, je regarde quand même. Je sais pas. Avant, j'étais consommateur occasionnel. Je pense que rentrer dans ta statistique du début de l'émission, où un mec de moins de 25 ans, quand j'ai moins de 25 ans, je vais regarder un porno par semaine, peut-être un truc comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en regarde quasiment plus. Mais voilà, c'est peut-être en. Je pense pas que ça soit que lié à mon expérience. C'est peut-être aussi l'âge, genre de choses, le fait d'être en couple. Il y a plein de choses qui joue. Après, non, sur mon désir, c'est vrai que non, ça n'a pas trop... Ça n'a pas vraiment changé, quoi que ce soit.
Bon, alors, qu'en est-il de ce paradoxe que tu énonces, qui est je ne suis pas misogyne, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pourtant, ce qui m'excite, c'est de voir des scènes d'humiliation et de violence sexuelle sur les femmes.
Mais je regarde quasiment plus de porno, donc déjà, j'essaie de sortir de... de sortir de ça. Pendant l'enquête, des fois, j'en regardais tout. Enfin, voilà, j'en regardais forcément beaucoup. Des fois, ça m'excitait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec plus de recul, un temps depuis 6 mois, ne plus être dedans, finalement, je fais ce choix aussi de plus regarder, ou en tout cas, d'en regarder vraiment beaucoup moins, quoi.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que, après tout, c'est pas grave, c'est que des images, c'est que de la vidéo, enfin, je veux dire, ils font rien de mal?
Il y a plein de choses qu'on peut dire sur ça. un, ok, on peut dire, bah, de toute façon, on fait ce qu'on veut. En fait, le porno est différent, par exemple, je sais pas, des histoires érotiques. Les histoires érotiques, bah, ça peut être des fois des scénarios tout aussi humiliants, tout aussi trash, mais bah, ça reste des histoires, ça reste des neurones qui se connectent dans votre tête et qui créent de l'excitation.
Tu veux dire la littérature érotique?
La littérature érotique, ouais. Par exemple. Vous regardez un porno, c'est pas la littérature érotique, c'est incarné. Donc, bah ouais, il y a des conditions déjà de travail pour ces femmes, et en tout cas de pratique. Et effectivement, bah, généralement, quand tu fais un buquec avec 36 mecs autour de toi, pour prendre un cas extrême, bah, c'est pas, c'est des conditions généralement avec des histoires derrière très très sordides, très très dures. Et voilà, donc ça concerne des gens. Un, sur la production, et après...
Ça, c'est ce que dit Virginie Despentes quand elle dit le porno, ça se fabrique avec de la chair d'actrice.
Exactement, hein.
On pourrait dire, bah, le cinéma aussi, ça se fabrique avec de la chair d'acteur.
Alors, absolument pas, parce que, je sais pas, quand vous regardez Piège de cristal avec Bruce Willis, et qu'il y a une explosion de verre, et qu'il prend il se fait la tête partout, et qu'il a le visage en sang, c'est pas son sang. C'est du... voilà, c'est des effets spéciaux. Une actrice, bah, sur le buquet où je vais, bah, ouais, les 36 mecs qui sont là, c'est leur vrai sperme qu'elle prend sur son visage. Et donc ça n'a rien à voir avec le cinéma ou une position d'acteur. Après, au-delà de juste des conditions de travail, l'autre question, c'est plus aussi de celle, bah, qu'est-ce que veulent dire nos fantasmes de notre société, et est-ce qu'on peut contrôler ces fantasmes? Après, on peut toujours faire le choix de regarder tel film ou pas, d'aller sur tel type de site ou pas. Ça, au moins, on en a la possibilité. Ouais.
Tu veux dire, donc, il y aurait des choix plus éthiques que d'autres pour toi?
Je préfère pas me prononcer là-dessus. Bah, je connais pas assez le porno féministe pour savoir comment ça marche. Toutes ces alternatives, je sais pas trop comment ça marche. Et tu me demandais vraiment ce que je retiens, et c'est vraiment ce que je retiens vraiment au final, c'est la puissance de ce script sur la domination et tout. Et des fois, je me dis, mais en fait, merde, sur quoi banderaient les mecs s'ils avaient pas cette domination ce qu'on voit dans le porno, quoi, pour être excité, en fait. Et que, bah oui, il y a cette idée de dire, finalement, c'est plus la domination qui excite, ou le pouvoir, et
que le plaisir.
Ouais, d'une certaine façon, ouais. Mais c'est vrai que, bah, tu te dis, ou en tout cas que le plaisir naît de ça, quoi. Et c'est vrai que ça pose des questions là-dessus, quoi.
Ok. Pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que tu souhaites recommander aux auditeurs?
Un bouquin que j'aime bien, que j'ai lu à 3-4 ans, qui est un de mes gros coups de cœur de ces 10 dernières années, qui s'appelle Le dernier stade de la soif, de Frédéric Exley. Et c'est l'histoire, ça rentre dans le sujet des masculinités. Le titre anglais, c'est A Fan's Note, donc le testament d'un fan. Et le mec parle beaucoup de son rapport au sport, au foot américain, pourquoi il aime aller dans le même pub pourri, voir du foot américain, un peu à loser. Et c'est un truc, bah voilà, le sport, et enfin, en tout cas, le côté fan, le côté ultra d'un sport, ça reste malgré tout quelque chose de très masculin, et il explore pas mal cette idée-là dans son livre, et puis il la rattache à plein d'autres choses liées, bah, à sa vie sentimentale, à son non-désir d'enfant, à plein d'autres choses. C'est vraiment un livre qui explore le thème de la masculinité sous plein d'angles différents, plein de thèmes différents.
Super, merci Robin Angelou.
Merci Victoire.
Voilà, c'était le 34e épisode des Couilles sur la table. Je vous encourage à partager ce qui vous a étonné ou plu ou enthousiasmé ou peut-être révolté dans cet épisode autour de vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Le livre Judy, Lola, Sophia et moi est une enquête publiée aux éditions de la Goutte d'Or. Les Couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio, à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson. Camille Regache est occupée de l'édition, et David Garzon, c'est le chef de la rédaction. Merci beaucoup et à bientôt.
Binge.